REF, la renaissance des entreprises de France à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF les 24, 25 et 26 août en direct de l'hippodrome de Paris-Longchamp.
Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Vous avez été avec nous toute la journée. On a eu un ciel, mais clément de chez Clément. Il a même fait chaud. Ici à l'hippodrome de Paris-Longchamp pour cette REF placée sous le signe de la francophonie aussi. Je rappelle qu'on est là encore demain toute la journée. Il est 20h19, on est ravis d'être avec vous. On va conclure cette journée avec une personnalité du monde politique qui nous a fait l'honneur de venir sur le plateau. Bernard Accoyer est avec nous.
Bonsoir.
Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale, vous êtes aussi un ancien élu local, vous avez été président d'un parti politique, vous avez eu beaucoup de mandats d'élus locaux, vous avez travaillé au niveau national. On peut dire que de vous, que vous êtes un homme politique complet. Vous êtes issu de la société civile, vous êtes issu de la médecine. Hein,
Je suis chirurgien ORL.
J'ai une petite question, d'introduction sur la température politique aujourd'hui. Vous qui avez cette expérience, quel regard vous posez, vous, Bernard Accoyer ?
Un regard assez préoccupé. Car les partis politiques sont dévalorisés, probablement parce que la situation générale est inquiétante et que les Français doutent de la capacité des partis politiques à résoudre les problèmes de la France et les problèmes des Français. Donc c'est une situation inquiétante, instable, et la stabilité, c'est jamais bon en démocratie.
Absolument. Surtout qu'on ne sait pas tout à fait d'où la mèche va s'allumer. Et que le désordre peut provoquer effectivement chaos et désordres sociaux. Alors vous, l'homme politique que vous êtes très attaché à la transition énergétique, l'écologie, ça vous parle. Vous êtes d'ailleurs intervenu sur le sujet ici. Et ce qui est très intéressant, d'en parler hors antenne lorsqu'on a préparé cette émission, vous ne faites pas d'opposition entre les différentes énergies, le nucléaire, l'hydrogène et d'autres énergies. Au contraire, vous plaidez finalement pour un complément de ces énergies qui œuvrent toutes dans un même sens. Une décarbonation annoncée, l'utilisation d'énergie renouvelable. Pour vous, clairement, le nucléaire, ce n'est pas acheté à la poubelle. Hein.
Certainement pas. Quelle est l'exigence et l'urgence ? L'urgence, c'est une urgence climatique qui exige de décarboner notre économie. Or, aujourd'hui, en France, 70% de l'énergie finale provient d'énergie fossile. Pas beaucoup de charbon, pratiquement plus en France, mais encore beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz.
Tout à fait.
Si on veut décarboner, supprimer ces énergies fossiles, dans les transports, dans les bâtiments et dans l'industrie, il faut électrifier ces trois systèmes. Et donc, il va falloir pouvoir fournir une électricité abondante, fiable, à tout moment, parce que dans un système électrique, il faut qu'il y ait toujours la disponibilité, la production en face de la demande. Autrement, tout disjoncte, c'est le blackout. Donc là, il faut donc prévoir une augmentation des capacités de production d'électricité et une production qui soit décarbonée. Or, la France ne part pas de rien. La France, elle est leader des pays du G7, co-leader en Europe, quant à ces émissions de gaz à effet de serre. Donc nous sommes déjà très bons. Bien sûr qu'il faut aller beaucoup plus loin, mais nous sommes déjà très bons. Et il faut s'appuyer sur ce socle pour aller plus loin. Bien entendu, aller plus loin, ça veut dire qu'on garde le socle, on ne ferme plus de centrales nucléaires, parce que c'est un gâchis incroyable, un gâchis climatique, mais aussi un gâchis financier. Fessenheim, c'est une décision purement politique.
Bien sûr.
La centrale aurait pu fonctionner peut-être encore 20 ans, en tout cas sûrement 10, avec l'autorisation de l'ASN, et c'est 10 milliards de gâchés. C'est une dépense politique qui est absolument injustifiée, inexcusable. On ne peut pas continuer comme ça. Par conséquent, il faut conserver nos capacités nucléaires, il faudrait même les augmenter, et parallèlement, augmenter nos capacités de production en installant des énergies renouvelables, voilà. Mais en n'allant pas à marche forcée, parce que vous voyez bien qu'il y a de plus en plus d'opposition. Il faut faire là où c'est possible, à un rythme supportable. Et puis on ne peut plus...
Solaire, éolien, hydrogène...
Alors l'hydrogène, ce n'est pas une énergie... Il faut fabriquer l'hydrogène. Mmh. Pour fabriquer l'hydrogène, il faut beaucoup d'énergie. Et donc, ça peut être fabriqué soit par des énergies renouvelables, éolien ou photovoltaïque, ou bien par du nucléaire qui est décarboné, qui est l'énergie la plus décarbonée. Donc voilà, c'est le message que nous transmettons. Il faut sauvegarder la filière, il ne faut plus fermer de réacteurs, il faut investir dans
le
nouveau
nucléaire. Mais comment fait-on, Bernard Accoyer, pour essayer de rendre ça acceptable politiquement par une population qui, on le sait par les statistiques et les sondages multiples, même si ce n'est pas toujours justifié, a un niveau de refus sur lesquels les politiques ne peuvent pas aller contre. On est d'accord que les politiques ne peuvent pas aller contre une opposition, une population, des administrés.
Alors l'acceptabilité du nucléaire a changé. Elle évolue. Les derniers sondages ont montré que ça va dans un sens d'une meilleure acceptabilité. Avant, il n'y avait pas de problème. Et puis, il y a eu Fukushima. Au passage, d'ailleurs, Fukushima n'a pas eu un seul mort sur les 19 000 qui étaient liés au nucléaire.
Oui,
c'est le tsunami qui a fait les morts.
Oui, on est d'accord.
Mais oui, sauf que c'est souvent présenté comme une grande catastrophe avec beaucoup de morts.
Il n'y a pas eu que Fukushima. Je ne veux pas revenir sur l'éternel Tchernobyl, mais il y a eu...
Tchernobyl est la seule catastrophe qui a effectivement fait des victimes. Pas en très grand nombre, mais il y a eu des victimes. Mmh. C'est tout à fait vrai. C'était une technologie qui n'est pas utilisée, qui n'est plus utilisée depuis bien longtemps, qui n'a jamais été utilisée en France. Mmh. C'était la fin de l'URSS, sans autorité de contrôle, avec des erreurs de manipulation, des fautes grossières dans les manœuvres qui ont entraîné l'accident et ensuite dans les premiers instants de sa gestion. Donc c'est vrai.
Et le niveau atteint aujourd'hui permettrait d'éviter.
Mais aucune énergie n'a pas d'inconvénient. Celle qui fait le plus de morts, c'est le charbon. Et celle qui fait le moins de morts, c'est le nucléaire.
Très juste.
Si vous voulez, il faut expliquer tout ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque avec l'énergie nucléaire. Il y a des risques comme avec toutes les énergies. Et les risques nucléaires sont résolus avec des technologies qui sont technologies sophistiquées. Il faut expliquer. Mais quand on va vous expliquer que pour produire autant d'énergie que l'on produit avec, par exemple, un kilomètre carré d'installation nucléaire... Il faut 30 km carrés de photovoltaïque, pardon, 50 km de photovoltaïque et 300 km carrés d'éolien. Vous comprendrez que sur la biodiversité, c'est encore le nucléaire qui va le mieux. Donc il faut, encore une fois, utiliser toutes nos capacités, ne pas gaspiller notre argent, parce que derrière, c'est quoi ? C'est le coût du kilowattheure pour le consommateur.
Alors vous avez souligné un fait important qu'on ne sait pas assez, c'est que la France est leader dans le domaine. Et c'est un peu le bon élève, finalement, de cette énergie qui tente à se décarboner, qui tente aussi à aller vers cette conversion climatique. Quand on parle de neutralité carbone en 2050, de votre point de vue, Bernard Accoyer, est-ce que vous y croyez ou est-ce que, allez, on se fixe un objectif tendance ? Bien évidemment, tout ça est à mettre en relation avec ce qui se passe dans le monde, puisque les défis climatiques, on l'a vu cet été, c'est pas neutre du tout. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez que la France a encore un travail à faire pour essayer de mettre en place cette place qu'elle a d'ailleurs de très bons choix d'être très en avance par rapport aux autres confrères de leur pays d'Europe.
La France est la mieux placée pour atteindre ses objectifs. Je ne dis pas qu'elle les atteindra, mais c'est la mieux placée, à condition qu'elle ne massacre pas sa filière nucléaire. Car si vous remplacez des centrales nucléaires par des énergies renouvelables, vous êtes obligé... Pour combler l'intermittence, quand il y a un anticyclone, quand il n'y a pas de vent, quand il fait nuit, vous êtes obligé d'installer des centrales à gaz qui produisent 70 fois plus de CO2 que le nucléaire. Donc il faut garder notre nucléaire et le compléter avec des énergies renouvelables. Dans ce cas-là, la France peut peut-être relever
ce défi. Pas d'expansion de réacteurs nucléaires. Alors, pas d'expansion du nombre de...
Je pense qu'il faudrait augmenter le nombre à terme. Ça va poser problème parce que c'est très long. Pourquoi il faudrait l'augmenter ? Parce que le volume global d'électricité, la quantité globale d'électricité qu'il faut produire doit être beaucoup plus importante. Et donc, il y a de la place pour augmenter le nombre de réacteurs et puis installer en plus à côté du renouvelable pour répondre à la demande qui va augmenter énormément si on électrifie, pour atteindre les objectifs climatiques, les transports, les bâtiments et l'industrie.
Alors, atteindre les objectifs climatiques est une chose, mais ça ne peut pas se faire sans, finalement, un consensus international. On est d'accord là-dessus ?
Alors,
parce que c'est une problématique qui touche l'ensemble de la planète.
Il y a des objectifs climatiques qui ont été fixés par les accords de Paris. Et puis, il y a les objectifs européens. Les objectifs européens sont très, très audacieux. Ils prévoient une diminution de 55% des émissions de CO2 par rapport à 1990 dès 2030, c'est tout de suite 2030, et la neutralité carbone en 2050. La marche est extrêmement haute. C'est pourquoi on a besoin d'absolument tout et surtout de ne pas détruire des centrales qui produisent une électricité décarbonée.
Alors, de votre point de vue, quand on voit cette interdépendance d'une seule planète, une et indivisible, je paraphrase un petit peu ce que disait notre président de la République, il y a certainement pas de planète B aujourd'hui, et qu'on voit par exemple la Chine avec les États-Unis qui représentent quand même un des plus gros émetteurs mondiaux de CO2.
Les deux plus gros.
Et dont, d'ailleurs, même si effectivement on peut saluer certaines initiatives, notamment aux États-Unis, mais aussi un peu en Chine, on est très loin du résultat.
Oui.
Tous ces efforts européens, Bernard Accoyer, et vous avez raison de le souligner, avec la France en tête de pont qui donne véritablement l'exemple, ça ne peut pas se faire effectivement sans un effort majeur de la Chine et des États-Unis. Dans les relations que vous avez aujourd'hui, dans le sentiment, l'interprétation que vous avez, est-ce qu'à votre avis, la Chine, comme les États-Unis, ont vraiment engagé ce processus? Il faut rappeler quand même que Joe Biden, nouvellement élu, a ratifié finalement, a rattrapé le coup avec les accords de Paris.
Il a remis les USA dans les accords de Paris.
Et
il relance le nucléaire aux États-Unis, comme tous les grands pays.
Okay.
Les USA, la Chine,
absolument,
la Russie,
alors,
il s'est plein pot sur le nucléaire.
La Chine, qui
est le pays qui a le bilan carbone avec les États-Unis le plus lourd.
Désastreux.
Est également le premier producteur d'énergie renouvelable, mais c'est aussi le premier consommateur de charbon. Et par conséquent, la Chine a pris des engagements qui seraient la neutralité carbone en 2060. La Chine a fait déjà un certain nombre d'efforts, mais aujourd'hui, ça reste un émetteur très...
Donc vous êtes confiant pour la Chine.
Je pense
comme
que
pour
la Chine, comme le reste du monde, est consciente de ce qui est en train de se passer avec le réchauffement climatique. Ses habitants en seront victimes. Ils sont déjà victimes de la pollution, qui est en grande partie liée au charbon. Et nécessairement, la Chine devra suivre. Ce que je crois surtout, c'est qu'il va y avoir un jour un choc énergétique, un choc nucléaire. Parce que comme on va manquer d'électricité, comme on va avoir à faire face à une exigence de décarbonation de l'énergie, il y a un moment où tout le monde va se tourner vers le nucléaire, car c'est la source la plus forte, la plus intense d'énergie décarbonée et qu'elle est pilotable.
Bien sûr.
Et à ce moment-là, ce serait bien que les Français soient encore dans la course, parce que la filière nucléaire en France, c'est 220 000 emplois, c'est une maîtrise de toute la filière, ce sont des débouchés importants, des coûts déjà terribles ont été portés à la filière, encore récemment, avec la fermeture de Fessenheim, avec l'arrêt des travaux sur la quatrième génération. La quatrième génération de réacteurs, ça utilise les déchets des autres réacteurs. Et la France, en utilisant l'uranium appauvri qu'elle a accumulé, a des siècles et des siècles de réserves. Donc, évidemment, pour les antinucléaires, il fallait absolument tuer la quatrième génération.
Raison politique, mais un raisonnement purement politique.
C'est dogmatique. C'est même pas politique, c'est dogmatique.
Donc, une écologie plus dogmatique est finalement contre-productive quand on irait...
L'écologie politique va à l'encontre de l'écologie scientifique.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est bien de faire un peu d'histoire. Il faut rappeler que c'est le général de Gaulle qui a insisté pour la construction de la filière nucléaire et que ce n'était pas tout à fait évident dans les années 60. Et qu'effectivement, il faut se rappeler que cette indépendance et un des éléments de l'indépendance et de la souveraineté de notre pays est dû à cet effort du général de Gaulle. C'était très intéressant ce qu'il disait sur les énergies, à qui appartiennent ces énergies, notamment, je ne reviendrai pas sur la privatisation de certaines sources d'énergie, mais il avait une vision extrêmement intéressante. On est ici à la renaissance des entreprises de France. J'aime beaucoup ce mot renaissance des entreprises de France, avec un gros axe sur la francophonie. Vous le savez, Bernard Accoyer, puisque vous avez été un personnage politique de premier plan, vous êtes toujours un personnage politique de premier plan. La francophonie, c'est 300 millions de personnes qui parlent le français. Ce sont des socles économiques puissants, avec des disparités, soyons clairs, entre les pays qui se situent en Afrique, au Maghreb, et les pays, et certains pays comme la Suisse, la Belgique, et même une partie du Luxembourg. Et du Canada, est-ce que la francophonie, cette renforcée sur le plan économique, pourrait être une nouvelle polarité? Je m'explique. 300 millions de personnes qui parlent le français, 84 pays potentiellement, ça représente une force,
bien
selon
sûr,
vous?
Bien sûr.
Alors, il ne faut pas rêver, on ne luttera pas contre les polarités américaines ou chinoises.
J'en suis convaincu pour plusieurs raisons. Il se trouve que j'ai fait mon service national en Afrique, dans un pays francophone de l'Afrique de l'Est, le Burundi, et que la langue est évidemment un vecteur considérable, bien sûr d'abord pour la culture, mais aussi pour le business.
Et ça facilite le business, mais bien sûr.
Bien sûr. Donc c'est une excellente initiative que le MEDEF a prise en souhaitant créer un réseau économique francophone. Je suis enthousiaste à cette initiative.
Ce socle économique lié à la francophonie, c'est quelque chose qui est très puissant dans l'idée.
Je pense
elle
que c'est
pas que culturel.
C'est très important. C'est très important. L'Afrique va jouer un rôle considérable au XXIe siècle en raison de sa démographie. Il est impérieux que l'Afrique se développe rapidement, augmente son niveau de vie pour maîtriser sa démographie, pour également éviter des flux migratoires inquiétants. Et nous avons beaucoup, beaucoup de coopération à conduire, notamment sur le plan des énergies décarbonées, où il faudrait, plutôt que de mettre un argent fou pour rendre totalement étanche un logement en France, on se borne à évidemment les isoler correctement, et que l'argent qu'on aurait économisé, on le mette en Afrique pour utiliser, par exemple, le solaire qui est là à profusion et qui peut répondre complètement aux besoins, beaucoup plus que sous nos latitudes.
Dernière question, Bernard Accoyer. Campagne qui s'annonce, sportive, hein, la campagne présidentielle qui s'annonce, avec de grosses inquiétudes dans la population. On le sent, un stress, même si effectivement... Cette sortie de confinement nous rend un peu plus euphoriques. On se retrouve, d'ailleurs, la preuve, nous sommes ici. On a très envie. Mais c'est aussi quelque part un arbre qui cache la forêt, puisque on sent bien que dans l'opinion, il y a une grande fébrilité. Cette campagne qui s'annonce présidentielle, Bernard Accoyer, comment vous la sentez-vous ?
Alors d'abord, j'ai quitté la vie politique et je me consacre maintenant à la défense de la filière nucléaire française. C'est comme ça que j'entends servir notre pays dans cette dernière période de ma vie. Donc je vais vous parler simplement en citoyen qui connaît effectivement mieux que d'autres.
Votre sentiment
probablement,
en tant que citoyen
Mon sentiment, c'est l'inquiétude parce qu'on ne sait pas trop où on va. Et que quand on ne sait pas trop où on va, on ne sait jamais où on va aboutir.
Clairement.
Donc j'appelle à ce que, sur des sujets concrets, notamment sur l'énergie, eh bien, on ait le courage de dire la vérité, de s'appuyer sur les sciences, sur la science, et de servir avant tout les intérêts des Français et du climat.
Je pense que c'est une très belle conclusion. C'est un plaisir de vous avoir
Merci.
Sur le plateau, Bernard
Accoyer. Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes ancien président de l'Assemblée nationale, mais vous avez tous les mandats, député, président de parti et élu local surtout, auquel vous étiez très attaché aussi. J'en ai oublié peut-être.
Non, jamais nommé, toujours élu.
Toujours élu. C'est important ce que vous dites. Et avec le regard de, justement de cette expérience, c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Il y a une chose qui revient beaucoup dans votre profil et dans votre façon de faire, outre la simplicité dont vous faites preuve, toujours, d'ailleurs les journalistes sont unanimes sur la question, c'est aussi ce recul que vous avez par rapport à justement la science et la raison. Et je pense que c'est ce qui devrait peut-être plus gouverner, souhaitons-le en tout cas pour le futur. Merci à vous.
Merci beaucoup.
La REF, la renaissance des entreprises de France, à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF, à réécouter et télécharger sur le site et l'application radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.